Sur le relief du Jura et des Alpes, il n'y a que sur l'extrême nord et près de la Méditerranée que le temps restera sec et chaud même. 27 degrés du côté de Nancy, 26 à Paris, 25 à Montélimar, 24 au Havre, 23 à Toulouse, 22 à Cherbourg, 21 à Tours et 19 à Brest.
La météo sur RMC avec Sonelia. 30 campings villages vacances pour vos plus belles expériences en France et en Europe.
Bienvenue sur RMC. Bon courage si vous êtes sur la route. Il est 9h.
RMC, la matinale week-end.
Toute l'info avec vous, Clément Gouitz, bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. La Suisse, grande vainqueur de l'Eurovision, la France termine au pied du podium. Emmanuel Macron incite les jeunes à aller voter aux élections européennes et un choc en top 14, le Stade Toulousain défie le Stade Français.
Le concours de l'Eurovision hier soir, la France avec Slimane termine donc à la 4e place.
Et c'est la Suisse qui remporte cette édition marquée par des tensions au Proche-Orient avec le titre The Code interprété par Nemo dans une soirée mouvementée, Marilyn Ottmann.
Avec beaucoup d'énergie, sa veste à plumes rouges et sa jupe satinée, le Suisse Nemo devient le premier artiste non-binaire, c'est-à-dire qu'il ne se sent ni homme ni femme, à remporter l'Eurovision.
Thank you so much.
J'aimerais dire que j'espère que cette compétition pourra continuer à encourager la paix et la dignité pour chacun.
Il casse son trophée en pesant ensuite en conférence de presse et en profite pour envoyer un message.
J'ai cassé les codes, j'ai cassé le trophée, mais le trophée ça se répare. Peut-être qu'il faudrait réparer aussi l'Eurovision.
Car si Nemo croule sous les applaudissements, le public a été moins tendre avec sa concurrente israélienne. La chanteuse Eden Golan, puis le directeur du concours, tous hués. Mais Israël termine à la 5e place grâce au vote des téléspectateurs. Israël, juste derrière la France, qui termine 4e. Slimane a brillé lors de sa prestation. Mon amour a particulièrement séduit le jury avec un final a cappella.
Et la Croatie et l'Ukraine complètent le podium.
RMC 9h02, manifestation ultra-droite autorisée en plein Paris sous les yeux de passants sidérés.
Le comité du 9 mai, ce collectif d'extrême droite, a bien pu manifester dans Paris hier. Plus de 600 manifestants néo-fascistes cagoulés portant des drapeaux nazis ont défilé dans la capitale. Aucun débordement n'a été recensé. Ce rassemblement avait été interdit dans un premier temps avant d'être finalement autorisé par le tribunal administratif. Christophe Cécile Garnier, spécialiste de l'extrême droite, invité ce matin de la matinale de RMC, nous explique pourquoi la justice les autorise à manifester.
Ils jouent en fait un peu sur la limite, si vous voulez. Aujourd'hui, en France, le nazisme, c'est des opinions qui sont proscrites. Hein, je rappelle qu'elles sont illégales. Donc faire un salut nazi en pleine rue, c'est pas de la liberté d'expression, c'est illégal. Ces gens-là savent jouer avec la limite. Ils se disent donc nationalistes révolutionnaires, pour ne pas dire néo-nazis ou néo-fascistes. Enfin, ils ont une tonne d'arguments comme ça, en fait. Hein. Pour certains, ils sont avocats, ils savent un peu comment marchent les arcanes de la justice, du Conseil d'État, et donc ils réussissent un peu à manœuvrer comme ça.
Christophe Cécile Garnier, spécialiste donc de l'extrême droite, invité ce matin de la matinale d'RMC.
Emmanuel Macron continue sa campagne pour les européennes sur les réseaux sociaux.
Une vidéo de 16 minutes publiée hier où il répond à 12 questions. Son objectif, attirer les jeunes électeurs et les inciter à voter à moins d'un mois des élections européennes. Johanna Chabas.
Emmanuel Macron en chemise cravate s'adresse directement à la caméra. Le ton est décontracté, le montage ciselé. Le président reprend les codes des réseaux sociaux.
Voilà, je vous retrouve pour répondre à quelques questions. La première, c'est celle d'Amande sur TikTok. Troisième question, Charlie le BG, donc j'imagine le beau gosse, sur Snapchat.
Il parle surtout de l'Europe, des mesures à prendre dans l'Union européenne. En 16 minutes, Emmanuel Macron répond à 12 questions, avec en toile de fond les élections et la lutte contre l'extrême droite.
Il y a une forme d'hypocrisie que là où les extrêmes droites, il y a encore 5 ans, 6 ans, disaient Brexit, Frexit, elles n'osent plus le dire. Mais au fond, le projet qu'elle porte, c'est la même chose.
Pour Isabelle Vera-Masson, spécialiste en communication politique au CNRS, cette vidéo a surtout pour but d'attirer les jeunes électeurs.
On voit bien que les codes qui touchent les jeunes sont là. Donc l'authenticité, la rapidité, la spontanéité. Pourquoi les jeunes ? Parce que c'est le public qui le vote le moins.
Emmanuel Macron finit sa vidéo en appelant les jeunes à aller voter, quel que soit leur candidat, pour que tous puissent choisir leur Europe.
La concertation sur le congé de naissance sera lancée ce mercredi avec les syndicats, le patronat et les associations, annonce la ministre chargée des familles, Sarah El Haïry, dans la tribune dimanche. Emmanuel Macron a dévoilé cette semaine les grandes lignes. Trois mois pour les mères, trois mois pour les pères, cumulables durant la première année de l'enfant et indemnisé à hauteur de 50% du salaire jusqu'au plafond de la sécurité sociale. Ce congé doit entrer en vigueur l'année prochaine. Armez-vous de patience, vous êtes sur les routes. Le trafic s'annonce très chargé aujourd'hui en Bretagne, Pays de la Loire, Normandie, Hauts-de-France. Ce sera noir sur le quart nord-ouest du pays, rouge sur le reste du pays dans le sens des retours. Il est conseillé de rejoindre ou traverser l'Île-de-France avant midi. Évitez la 13 entre Caen et Paris de 11h à 16h ou encore la 7 entre Orange et Lyon de 12h à 21h.
RMC, il est 9h05. Israël poursuit ses bombardements sur la bande de Gaza et plus particulièrement sur Rafah.
21 personnes ont perdu la vie, dont deux médecins selon le Hamas. L'armée israélienne appelle les habitants à fuir Rafah avant de lancer son opération militaire terrestre. Environ 300 000 Palestiniens ont quitté cette ville depuis lundi. De quoi largement faire réagir la communauté internationale, Luc Alloubert.
Oui, les évacuations se font dans des zones dangereuses, selon l'Union européenne. C'est inacceptable, a déclaré hier le président du Conseil européen, Charles Michel. Une vaste opération à Rafah conduirait à une catastrophe humanitaire colossale pour l'ONU. C'est aussi l'avis des États-Unis. Mercredi, le président américain Joe Biden a menacé Israël de ne plus livrer d'armes offensives en cas d'attaque majeure. Alors Benjamin Netanyahou prend-il au sérieux ces menaces? Difficile à dire, selon Jérôme Pélistrandi, rédacteur en chef de la revue Défense Nationale. En tout cas, une intensification des opérations semble bien se profiler. L'armée va bientôt agir avec force. C'est ce qu'on peut lire sur des tracts, des SMS envoyés aux Palestiniens de quartiers plus à l'ouest de ceux déjà évacués. Une potentielle attaque d'ampleur alors qu'1,4 million de Palestiniens sont massés dans cette ville.
Le chef de l'ONU réclame ce matin un cessez-le-feu immédiat. Et pour Joe Biden, un cessez-le-feu à Gaza est possible demain si le Hamas libère les otages. On vote en Espagne. Près de 6 millions de Catalans sont appelés aux urnes pour élire leurs députés. Le parti socialiste du Premier ministre Pedro Sanchez espère remporter cette élection pour reprendre le pouvoir aux séparatistes. Ces derniers dirigent la région depuis une décennie. Une victoire qui donnerait un second souffle au mandat de Pedro Sanchez.
Le sport avec d'abord le football. Suite aujourd'hui de la 33e journée de Ligue 1.
L'OM affronte ce soir Lorient, trois jours après son élimination en demi-finale de la Ligue Europa. Et pour le défenseur marseillais, Chancel Memba, il faut vite se relever.
On a travaillé pour partir à la finale. Mais on ne va pas baisser les bras. Ça fait mal, mais on ne va pas rester là. On a commencé à travailler pour finir trois matchs. Parce que trois matchs, ça reste devant nous. C'est un match très important. Mais je n'ai pas envie de revenir derrière. Parce que quand tu tombes, il faut relever très vite possible.
Coup d'envoi à 21h. Six autres matchs ont lieu à la même heure, notamment le derby de l'Est, Strasbourg-Metz, Rennes, Lens ou encore PSG-Toulouse. Ce sera les adieux de Kylian Mbappé au Parc des Princes. Justement, hier au Parc des Princes, le PSG a validé son ticket pour la finale de D1 Arkema. Les footballeuses parisiennes ont éliminé le Paris FC au tir au but. Le score était de 2-2 au bout du temps additionnel. L'autre demi-finale opposera cet après-midi les Rémoises à l'Olympique Lyonnais au Groupama Stadium à 16h45. La finale, elle se jouera le 17 mai prochain à 21h, toujours au Groupama Stadium à Lyon.
Et en rugby, un classique du top 14 ce soir.
Stade Toulousain, Stade Français, pour clore la 23e journée du championnat. Un duel du haut de tableau. Les Toulousains, champions de France en titre, peuvent prendre la première place en cas de victoire ce soir. Reportage de Winnie Claret.
Toulouse, le maestro du rugby français contre Paris, qui gagne en marquant peu et en défendant beaucoup. Qu'importe pour Thibaut, abonné du Stade français.
Je vois beaucoup de médias qui disent que le Stade français, ça joue moche, mais l'important c'est de gagner.
Être considéré comme le vilain petit canard du top 14, c'est peut-être mieux avant d'affronter le Stade toulousain, selon le supporter.
C'est bien aussi d'être un peu l'outsider. Faut pas oublier qu'en 2015, le dernier titre, on est en demi-finale contre le Grand Toulon, qui est triple champion d'Europe. Et puis finalement, on va au bout.
Le troisième ligne parisien, Mathieu Erigoyen, confirme.
Je pense que notre place, elle n'est pas volée. De toute façon, nous, on est plus dans une mentalité où moins on parle de nous, mieux on se porte. En tous les cas, on sait que c'est très serré entre toutes les équipes, qu'une semaine à l'autre, ça peut très vite changer.
Et puis que Toulouse et la côte, ça n'étonne pas l'arrière Léo Barré.
C'est normal qu'on parle d'eux. Le jeu qu'ils produisent est assez exceptionnel. Nous, on est prêts à rivaliser avec ce genre d'équipe. Maintenant, c'est à nous de montrer dimanche soir qu'est-ce qu'on a dans le ventre.
Avec ou sans la manière, les Parisiens devront engranger manger des points face à Toulouse, mais aussi contre Bordeaux, Castres et Toulon pour assurer leur ticket en demi-finale.
Coup d'envoi de cette rencontre à 21h05. À noter hier la victoire de Toulon 30-24 face à Lyon. Le RCT est quatrième ce matin, puis le MHR s'enfonce un peu plus dans la crise après sa cinquième défaite de suite hier. Défaite sur la pelouse de Castres 27-26. Ils sont toujours 13e et barragistes. Pogacar écrase le Tour d'Italie. Le Slovène a remporté hier au sprint sa troisième étape sur le Giro en 8 jours. Le Slovène a devancé le Colombien Martinez, l'Australien Ben O'Connor. Le Français Alex Baudin termine 10e de l'étape. Au classement général, Pogacar conserve le maillot rose et creuse l'écart sur le second Martinez et le troisième Geraint Thomas.
Et puis les courses RMC.
Le Quintet Plus se déroule sur l'hippodrome de Paris-Longchamp à 15h15. Le pronostic de Mathieu Zaccagnini, son favori est le numéro 6, My Fancy. Et puis son outsider est le numéro 14, Noce d'Argent. La course du Quintet est à suivre en direct sur RMC, RMC Découverte.
Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Merci beaucoup Clément Gouitz. Le Quintet Paris-Longchamp, départ 15h15, départ tout de suite pour Le Mans. Mais oui, Jean-Christophe Drouet en direct du Mans avec ses grandes gueules du sport. Bonjour Jean-Christophe.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Alors, le programme, pourquoi vous êtes au Mans?
Pourquoi? Pour le Grand Prix moto.
Ah voilà, c'est
le
ça.
Le MotoGP, ça va être incroyable. Les motos sont déjà en train de tourner. Enfin, pas les Cadors, évidemment. Ce sera un petit peu plus tard. La course, ce sera à 14h. Mais on va vous faire vivre cet événement en direct sur RMC. Nous en parlerons dans les grandes gueules du sport à partir de 9h30 avec des Français. Nos deux Français qui ne vont pas forcément très bien depuis le début de la saison. Le soufflet est-il déjà retombé? On se posera la question. À partir de 10h, Kylian Mbappé qui va faire ses adieux au Parc des Princes ce soir avec le maillot du Paris Saint-Germain. Et le club parisien qui n'envisage pas de célébration particulière pour sa star, est-ce petit? Les GG ne sont pas d'accord. Les GG, justement, Jérôme Pinault, Sarah Pitkowski, Marie Martineau et Christophe Cessieux aujourd'hui.
Ah, tout à l'heure à partir de 9h30, Jean-Christophe. Va...
Ah, alerte!
Chaque fois, je me fais avoir, mais oui, cette alerte.
Bah, ça tombe à n'importe quel moment.
Bah, effectivement, il faut écouter RMC à n'importe quel moment de la journée, de la nuit. Ça peut tomber, les amis. C'est une alerte pour vous inscrire, pour jouer à la roue.
Oui, vous la faites tourner, vous pouvez gagner jusqu'à 20 000 euros.
C'est
vous imaginez
dingue.
C'est aussi simple que ça.
Ce sera tous les jours à partir de demain et toute la semaine, à n'importe quel moment. Vous entendez cette alerte, vous vous inscrivez, vous avez 5 minutes pour vous inscrire. Roue par SMS au 732-16, roue par SMS au 732-16. Allez, bonne chance à vous.
Et d'ici là, on va trinquer. Hein.
Ah bah, le beurre et l'argent du beurre avec Perico, les gars. S'il est là, Perico, le dernier jour du pont où les Français se sont adonnés à l'art de l'apéro, finalement.
Alors l'apéro, c'est un rituel social qui peut être gastronomique et gourmand, mais attention à ne pas abuser.
Bon, on va voir ça avec vous dans deux minutes, Perico. À tout de suite.
RMC, 6h30, 9h30.
La matinale week-end.
Bonjour, je m'appelle Boris. Je suis expert solution énergétique EDF pour les entreprises. En ce moment, beaucoup de clients me demandent comment réduire l'empreinte CO2 de leur entreprise. Ils savent que c'est important pour la planète et leurs factures. Ils veulent passer à l'action. Alors avec notre offre Décarbone, nous programmons ensemble une visite qui les éclaire sur leur impact CO2 et je leur propose des solutions adaptées à leur entreprise. Et ça, c'est mieux pour la facture.
EDF. Plus d'informations sur edf.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la. En Pays d'Oc, grâce au cépage, on en sait davantage. Aujourd'hui, la parole au Grenache, un cépage qui donne des rosés généreux.
Ah, ici, côté soleil, je suis servi. J'aime quand il fait encore chaud en fin de journée. C'est comme ça qu'on apprécie ma fraîcheur et ma vivacité. Vous ne seriez pas bien avec moi, là, les pieds dans l'eau?
Pays d'Oc, 58 cépages et une indication géographique protégée à retrouver sur nos bouteilles. Campagne cofinancée par l'Union Européenne et la région Occitanie. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.
Chez Carglass, nos clients nous le disent, un impact sur deux fissure en moins de 3 semaines. Alors, n'attendez pas. Chez Carglass, en 30 minutes, on le répare. C'est rapide et efficace chez nous. Mais ce n'est pas tout. En ce moment, pour toute intervention par brise, Carglass vous offre un an d'abonnement à l'appli Coyote en version premium. Parfait pour connaître en temps réel les dangers, les limitations de vitesse. Comme ça, zéro stress sur la route et zéro stress pour vos points. Alors, profitez-en maintenant. C'est jusqu'au 31 mai sur Carglass.fr.
Carglass répare, Carglass remplace.
Détails de l'étude et conditions sur Carglass.fr.
RMC, la matinale week-end.
Le beurre et l'argent du beurre.
Bonjour Perico Légas.
Bonjour Mathieu.
Et à la vôtre, en ce dimanche, dernier jour tranquille de ce pont de l'Ascension. Pourquoi à la vôtre?
à la vôtre, parce qu'on va, on a quand même fait quelques apéros pendant
c'est
ces
vrai,
4 jours.
C'est hein. vrai, alors on va continuer.
Et on va en faire d'autres,
Avec modération, mais d'abord ce chiffre, 69% des Français disent prendre l'apéro au moins une fois par semaine. C'est tout de même massif. Les femmes prennent plus l'apéro que les hommes, figurez-vous.
Je m'en suis rendu compte dans mon entourage immédiat, à ma grande stupeur, c'est souvent les femmes. Alors, on peut peut-être comprendre qu'elles ont besoin d'une pause.
Oui.
À un moment donné, voilà, de mettre les pieds sous la table ou sur le divan, de passer un moment de bonheur et de convivialité. Et c'est vrai que l'apéro, qui a toujours existé, l'apéritif, est vieux comme le monde.
Est-ce qu'il est français, l'apéritif ?
Non, au départ, il n'est pas français. Il est plutôt anglo-saxon, puisqu'il répond quand même à des cultures alimentaires décousues. Et on sait que le fameux repas à la française est institutionnalisé sur des actes très précis. Et l'apéro était un petit peu l'introduction anglo-saxonne, la consécration du grignotage. Voilà. Et c'est devenu un instant rituel, mais qui a aujourd'hui une connotation culturelle et sociologique très importante, avec de vrais instants de bonheur et des vrais instants sociaux, puisque c'est un moment où on se rencontre. Alors, je ne dis pas que ça remplace totalement le repas, mais ça a tendance à remplacer le repas. Et vous avez des apéros qui sont en fait le début du repas. C'est l'entrée.
Exactement.
Parce qu'on, justement, on le culinarise un petit peu plus. On est sorti, ça existe toujours, les petits biscuits, les petits fours, avec souvent un vermouth qui était vraiment la boisson d'apéritif. Les vaincu, je ne vais pas citer les marques, mais ça a été un patrimoine, j'allais dire, de la boisson française très long.
C'était pour l'accueil avant le dîner.
C'était pour l'accueil.
Là, aujourd'hui, c'est vrai qu'on va plus inviter facilement pour un apéro que pour un dîner où il faut beaucoup de préparation, où on a la pression que la viande soit bien cuite, etc.
Rappelons, cher Mathieu, que la notion d'apéritif, c'est d'ouvrir l'appétit. C'est-à-dire qu'on va passer à table et comme les repas étaient copieux, il fallait stimuler, j'allais dire, c'est le lanceur. Et on avait cette toute petite collation une heure avant le repas qui vous ouvrait l'appétit, qui vous donnait envie d'aller plus loin. Aujourd'hui, quelque part, ça arrive que ce soit l'acte alimentaire de la soirée. Il est sur un apéro, alors on va voir, il est gastronomique, il est culinaire, il est très fourni. Mais c'est devenu un phénomène récent qui apporte son lot de bonheur. Hein. Alors attention, les nutritionnistes, faut attention parce qu'on n'y mange pas forcément des choses qui sont nutritionnellement
saines. Mais on va voir aussi si on peut faire un apéro sans les kilos.
Mais il peut être moral et éthique, il n'y a aucun problème.
Avant de savoir ce qu'on mange, regardons ce qu'on boit. Et alors là aussi, c'est symptomatique de ce qui est en train de se passer. Toujours les mêmes chiffres de ce sondage Apinio pour LSA qui nous disait donc que les femmes prennent plus l'apéro que les hommes, que 69% des Français prennent l'apéro au moins une fois par semaine. On apprend aussi que dans 20% des cas, il n'y a plus d'alcool à l'apéro, ou en tout cas que 20% des convives ne boivent pas systématiquement de l'alcool tout en prenant l'apéro, Perico.
Alors, effectivement, l'apéritif, c'est le fait de grignoter quelque chose, de manger ou de déguster avec une boisson qui apporte son lot de bonheur. Ça peut être des jus de fruits. Vous pouvez appliquer du coup à l'apéro l'abstinence, parce qu'on sait que peut-être à table, on va boire un verre de vin. Donc, on peut ne pas boire d'alcool à l'apéritif parce que la gamme des boissons offertes, finalement, elle est réjouissante, elle est amusante. Voilà, on n'est pas obligé de... Alors, ensuite, on peut composer soi-même. Vous avez le fameux spritz, voilà, qui est là, qui
oui,
est souvent.
C'est ça, la boisson. C'est sûr.
Mais du coup, vous avez beaucoup de gens qui, à l'apéro, composent même une boisson, hein, des jus de légumes, des jus de fruits, font une espèce
des
de cocktail
sans alcoolisé.
Et ce qu'il y a de bien dans cette nouvelle éthique de l'apéritif, c'est que ça participe de l'improvisation, de la création. Même dans le contenu de l'assiette, il peut y avoir une petite salade, une petite préparation qui est justement faite pour l'apéro avec des petites cuillères ou des petites fourchettes. Et pour la boisson, la même chose. On peut sortir des clichés conventionnels de l'apéro vineux ou de l'apéro avec les vermouths et d'avoir quelque chose qui soit improvisé par la maîtresse de maison ou le maître de maison qui vous dit regarde ce que je viens d'inventer pour goûter cet apéritif.
Alors justement Perico, qu'est-ce qu'on mange à cet apéritif? Comment on le prépare? On va discuter avec vous au 32-16.
RMC, le beurre et l'argent du beurre.
Partons chez Caroline Perico si vous voulez bien. Bonjour Caroline.
Bonjour Mathieu, bonjour Perico.
Merci d'être avec nous Caroline, vous avez profité de ce week-end, de ce pont férié pour préparer des apéros.
Voilà, c'est ça, tout à fait. On est des femmes de l'apéro et donc je suis ravie de passer à l'antenne avec vous sur ce sujet.
Ben, nous aussi on est ravis de vous accueillir. Comment ça, fan de l'apéro, vous en faites très régulièrement?
Alors à chaque fois qu'on reçoit déjà.
Oui.
Parce qu'en fait, pour plusieurs raisons, la première, c'est qu'on s'est aperçu que l'apéro durait de plus en plus longtemps.
Mmh.
On échange beaucoup avec nos amis et il peut durer entre 3 et 4 heures.
Ah oui.
Oui.
Donc là, c'est en fait, c'est l'apéro dînatoire.
Eh bien, non. Je dirais plutôt dégustatoire. Ah-ha. Parce que, comme vous l'avez dit en tout début, on supprime l'entrée. D'accord. Et on garde le plat, le fromage et le dessert.
Quand même. Oui, donc les soirées chez vous, c'est 6, 7, 8 heures. Quoi.
On vit bien chez Caroline.
C'est ça, du 19, 2, 3 heures du matin.
Bon, quelle est votre adresse qu'on vient tout de suite, Caroline, parce que je vois
ça. Eh bien, je suis à Vineuil, oui. La capitale de l'asperge, avec les alentours.
Juste en face de Blois, de l'autre côté de la Loire à Blois. C'est et ça, ce sont des terres fait. Sablonneuses où on a eu les meilleures asperges de France à l'époque.
Tout à fait. Et donc, en fait, on a aussi d'autres raisons, parce que évidemment, pour faire ça, il faut aimer cuisiner.
Oui.
Parce que, en fait, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, ça prend beaucoup de temps.
C'est-à-dire
quand vous faites une entrée, vous faites une entrée. Mais quand vous faites plusieurs choses, ça prend encore plus de temps, en fait.
Donc, vous vous organisez longtemps en amont.
On commence la veille, le matin, l'après-midi. On fait beaucoup de préparations la veille ou le matin et on dresse juste avant l'arrivée des invités ou au moment où ils sont là.
Heureusement qu'on a eu le viaduc de 5 jours là pour préparer tout ça. Vous servez quoi ? Vous avez des plats phares, enfin des plats, je sais même pas si on dit des plats d'ailleurs pour un apéritif Perico.
Ça peut être des plats, des mets, des préparations, c'est des amuse-bouffes, des amuse-gueules. C'est en fait, il y a l'inspiration orientale, vous savez, le mezze ou la kemia, les entremeses espagnoles, cette multitude de petits plats qui ont été préparés et qui fait qu'on est dans la diversité, on a des couleurs, des goûts différents. Et ce que confirme Caroline, si ça veut être fait avec un petit peu d'amour, un peu de passion, mais ça prend du temps parce que c'est un vrai travail d'élaboration. C'est pas du produit transformé. On ouvre. Alors beaucoup en font ça.
Aujourd'hui,
l'industrie d'apéritif, elle est terrifiante. Mais le fait maison, et on est dans le débat du fait maison. Caroline est dans le fait maison, elle.
Pour 87% des Français qui font l'apéro, toujours ce même sondage, il y a des chips, quand même, des cacahuètes et du saucisson. J'imagine que c'est un peu plus élaboré chez vous, Caroline.
Oui, tout à fait. Donc, alors, on peut très bien mettre ce genre de choses. Par exemple, si on revient de Corse, on va mettre de la charcuterie corse, parce que c'est une très bonne charcuterie, comme le lonzo, la copa, voilà. Par contre, par exemple, on aime bien faire des choses pour découvrir des saveurs. Quand il y a eu le Covid, après, par exemple, la truffe, le prix avait beaucoup baissé. Et du coup, on en a acheté. D'ailleurs, on a découvert ce qu'on n'en avait jamais mangé avant. Et on a fait découvrir à nos amis la truffe avec une préparation de brouillé et des copeaux de truffe.
Parce que c'est en plus petite quantité, donc on peut aussi se permettre des mets plus chers.
Voilà, c'était pas cher à ce moment-là. Donc du coup, on en a profité. Après,
Perico n'est pas très loin de chez vous. J'ai l'impression qu'il a très envie de venir
rejoindre. Oui, je pense que Mathieu et moi, on va faire un détour. Parce que plus on progresse dans la conversation, plus votre cas devient très intéressant.
Après, on va aussi... on aime bien, alors ça c'est un challenge, c'est faire aimer des produits que nos amis vont pas aimer. Une fois, c'était assez marrant, on a réussi à faire manger des huîtres à des amis qui aiment pas ça. Donc en fait, c'est soit vous la révisitez, ou soit par exemple, on la fait pocher dans un bouillon, ça change un peu la texture, le goût se noie un petit peu dans le reste, et du coup, on a réussi à faire aimer l'huître à des amis qui en mangent pas d'habitude.
Dites-moi, c'est la gastronomie chez vous.
Et après aussi, beaucoup de revisites. Donc par exemple, si je fais un petit sable aux lentilles, je vais garder donc les ingrédients et puis je vais tout simplement les mixer avec un peu de crème, un peu de fromage frais et vous avez une revisite du petit sel aux lentilles puisque vous avez tous les marqueurs. Donc il y a les virines, mais il y a aussi des vaisselles un peu plus élaborées, des bols en transparent ou des assiettes creuses. Il n'y a pas que les virines traditionnelles.
Perico, juste parce que là, Caroline nous fait saliver.
Elle nous fait la version gastronomique.
On comprend que
il y a quatre types d'apéritifs.
Il y a beaucoup de préparation.
Là, on est dans la gourmandise.
Pas forcément, c'est pas pour toutes les bourses de préparer ces apéros-là. Budget moyen d'un apéro, 12 euros par convive. Comment on fait pour avoir un apéro tout à fait savoureux, pas trop cher, avec des astuces simples? Alors, avez des recettes?
Oui, mais Caroline est un peu l'explique aussi. On va vers le produit. Et si on a la chance, on est en France, d'accéder à des produits simples, effectivement, ça peut être l'ensemble des coquillages qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Aujourd'hui, beaucoup d'apéritifs sont à base de légumes crus. Alors, on peut diversifier le choix des légumes. Ils peuvent être crus ou un petit peu cuits. Les sauces qui vont avec, voilà. Il est vrai que quand vous êtes dans une grande surface, le rayon apéritif que j'ai connu, moi, tout petit en fin de console, avec quelques biscuits et puis quelques chips, aujourd'hui, vous avez non seulement tout, j'allais dire, ce panel de la biscuiterie
qui effraie les nutritionnistes parce que c'est une catastrophe,
évidemment,
alimentaire. Mais vous avez aussi désormais le petit plat, la petite préparation cuisinée dans l'univers de l'apéritif, sous conditionnement, dans une barquette, il n'y a que juste retirer le film. Et vous avez très facilement, en revenant de la grande surface, 15, 20 ou 30 formes d'apéritifs différents à disposition. Donc l'intérêt de l'apéritif, et Caroline est là pour en témoigner, c'est de préparer chez soi avec des produits frais qu'on est allé chercher au marché. Et l'avantage de l'apéritif, c'est qu'on peut... On peut le faire très cher, là. Si on a de la truffe et des huîtres, bien entendu. Encore heureux, Caroline ne nous a pas dit qu'elle met du caviar, quelques grains de caviar. Mais si elle pouvait y accéder, je suis sûr qu'il y a des trucs très intéressants. Mais on peut aussi avoir des produits bon marché, très simples.
Qu'est-ce que vous servez, vous, à l'apéro?
Moi, à l'apéro, je prépare souvent, j'allais dire, soit des produits de la mer, des petits poissons, des anchois, vous voyez, que j'ai fait mariner moi-même. Alors, on a des boîtes de conserve qui sont formidables. Ou alors, je prépare une petite touche orientale, une salade thaïlandaise avec un petit peu de chou, de la viande, du soja, des arômes, des épices. Il faut que ça soit frais, vous voyez. Il ne faut pas que ça soit bourratif. Ensuite, il peut y avoir il y a le plat chaud souvent à l'apéritif. Mais là, c'est l'apéritif entrée, hein. Mais si on reste dans la dégustation, j'allais dire un chipotage noble, on peut faire des produits frais. Ce qu'il faut, c'est que ça soit très savoureux et que ça ne bourre pas.
Et ce qui est formidable, c'est que c'est aussi comme ça qu'on fait un apéro, en évitant les kilos, parce que beaucoup de sucre, de mauvais sel, dans les cacahuètes, les chips, les pistaches, vaut mieux privilégier caviar d'aubergine, houmous, tzatziki, c'est beaucoup plus sain. Les ceviches de poisson, des solutions aussi en évitant le fromage, tout ce qui est lipide, miser sur les aliments crus, mettre des sauces
diversifier.
Maison plutôt que des sauces industrielles.
On peut mettre un petit peu de fromage à la fin, dans des petits cubes que l'on peut faire soi-même, un petit fromage de chèvre frais ou une pâte cuite comme un comté, voilà, faut pas en abuser. Sauf que l'addiction, on voit bien, comme c'est bon et qu'on est dans l'insouciance, on est autour de la table, vous avez des gens, il y a une forme d'addiction et il y a des gens qui vident la totalité parce que c'est facile à manger et que c'est gourmand. Attention à ne pas basculer dans l'excès.
Caroline, profitez bien de ce dernier jour de pont. Merci de nous avoir fait saliver.
Merci à vous, c'était avec plaisir.
Et attendez-vous à ce que Perico frappe à la porte très bientôt.
Et puis on mettra une note.
Si.
Un jour, on aura peut-être le guide des meilleurs apéros de France, où on dira aux gens ce que vous en recevez, est-ce que vous ouvrez la porte pour pouvoir goûter chez vous.
L'apéro presque parfait, nouveau concept avec Perico Legas. Le beurre et l'argent du beurre tous les week-ends. Et dès demain lundi, on vous retrouve dans Estelle Midi, Perico.
Absolument, pour décrypter l'actualité.
Et à demain, midi 15h, c'est Estelle Midi avec Perico et toute la bande.
Et le beurre et l'argent du beurre est à retrouver en podcast sur l'appli RMC.
Et nous, on se retrouve dans deux petites minutes, restez bien avec nous.
RMC,
la matinale week-end.
Mission décarbonation avec EDF.
Comment les entreprises s'inscrivent dans une démarche de décarbonation? Georgina Grenon, directrice excellence environnementale pour Paris 2024, nous explique comment EDF contribue à des jeux plus responsable.
Grâce à EDF, c'est la première fois qu'un événement de cette ampleur sera alimenté à l'électricité 100% renouvelable et tracée. Avec Paris 2024, ça devient possible. Et c'est aussi un héritage des Jeux.
À bientôt dans Mission Décarbonation avec EDF.
L'énergie est notre avenir, économisons-la. Plus d'informations sur edf.fr/Paris2024.
Cerise de Groupama nous dit pourquoi ça change tout d'être bien accompagné.
Rien de grave, Victor.
Non, Cerise, c'est juste un accrochage. Mais je dois faire réparer ma voiture rapidement et en ce moment, j'ai beaucoup de dépenses.
Rassurez-vous, si vous la faites réparer dans un de nos garages partenaires, vous n'aurez pas de frais à avancer. Nous les prendrons directement en charge.
Ah, mais merci, Cerise. Je vais appeler mon conseiller.
Et il vous trouvera le garage partenaire le plus proche de chez vous. Groupama, la vraie vie s'assure ici.
Plus d'infos sur groupama.fr. Pour les conditions et limites des garanties, se reporter au contrat.
Le petit Marseillais fête ses 40 ans. 40 ans de... 40 ans de... 40 ans de... Depuis 40 ans, le petit Marseillais ensoleille votre quotidien avec ses gels douches qui sentent bon la Provence. 92% d'ingrédients d'origine naturelle et des flacons entièrement recyclables. Le petit Marseillais, 40 ans de soleil sous la douche. Et en ce moment, profitez de nos offres anniversaires en magasin. Offre disponible dans les magasins participants.
Donnez une autre dimension à votre passion pour la moto. Avec les motoclubs et les écoles de la Fédération Française de Motocyclisme. Des structures de qualité dédiées à l'enseignement de la moto en loisir ou en compétition. Quel que soit votre âge, apprenez les bases du pilotage. Progressez à votre rythme pour exprimer votre passion pour la moto en toute sécurité. Et faire le plein de sensations. Des solutions clés en main vous sont proposées partout en France. Vibrez moto. Rejoignez la Fédération Française de Motocyclisme. La FFM, au cœur de votre passion.
C'est Guy Broche, les orages reviennent.
Oui, et on en a déjà dans le sud-ouest, ils vont remonter vers la Bretagne et la Normandie. Alors, tout ça entre deux éclaircies, hein. On peut avoir quelques averses orageuses, des averses orageuses plus marquées donc dans le sud-ouest. Pour l'instant, dans l'est du pays, c'est encore du beau temps, mais ça va se décaler entre la Normandie, l'Île-de-France, le Massif central et les Pyrénées, des orages accompagnés parfois de grêles. Sur l'ouest, on va retrouver un temps plus calme entre nuages, éclaircies et encore quelques gouttes. Et puis, on aura des averses orageuses sur les reliefs du Jura et des Alpes. La Méditerranée restera à l'écart avec du soleil, tout comme les frontières du Nord et des températures souvent comprises entre 19 et 24 degrés, jusqu'à 27 sur le Nord-Est.
La météo sur RMC avec Sonelia. 30 campings villages vacances pour vos plus belles expériences, en France et en Europe.
Merci ma chère Peggy, passez un bon dimanche.
Bon dimanche à vous.
Et bon dimanche à tous ceux qui sont à l'écoute d'RMC. Et bon courage à ceux qui sont sur la route. On va prendre la direction du Mans. Place au GG du sport. Bonjour Jean-Christophe Drouet.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Alors, Le Mans, le Grand Prix moto, c'est à vivre avec vous.
Exactement, c'est la cinquième manche de la saison. Ce sera à partir de 14h à suivre en direct en intégralité sur RMC. On vous dit à la semaine prochaine, les copains de la matinale, parce que les grandes gueules du sport commencent maintenant. Et on va parler du Mans et plein d'autres sujets.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport en direct du Mans.
Jean-Christophe Drouet.
Bonjour à tous, les grandes gueules du sport, c'est votre émission en direct tous les samedis et dimanches de 9h30 à midi, des grandes gueules du sport exceptionnelles aujourd'hui en direct du Mans à l'occasion du Grand Prix MotoGP. La cinquième manche de la saison au sommaire aujourd'hui, justement les Français sont rentrés dans le rang en MotoGP, qu'on se le dise. Il ne joue plus la gagne désormais. Forcément, l'intérêt médiatique a baissé. Le soufflet est-il déjà retombé? Ce sera la une des GG dans quelques instants. Kylian Mbappé va disputer ce soir son dernier match au Parc des Princes avec le maillot du Paris Saint-Germain. Des adieux très attendus devant ses supporters, mais le club parisien n'envisage pas de célébration particulière pour sa star. Est-ce tout simplement petit? Ce sera le bras de fer des GG à 10h et Emmanuel ne sera pas dans le studio RMC. Raphaël Nadal a été balayé dès le deuxième tour du tournoi de Rome. À 2 semaines de Roland-Garros, l'Espagnol ne veut plus avoir peur de se blesser quand il entre sur un court de tennis. Est-ce tout simplement impossible de ne pas avoir peur, de ne pas penser à la rechute? On ouvre le débat à 11h et on vous donnera toutes les dernières informations concernant Raphaël Nadal. Évidemment, des invités MotoGP tout au long de cette émission en direct du Mans, évidemment. Les grandes gueules du sport ce matin, je vous les présente. Elles sont très heureuses d'être ici au Mans à l'occasion du Grand Prix MotoGP. Une grande gueule qui, comme Kylian Mbappé, est une légende, parfois incomprise, souvent incomprise d'ailleurs. Christophe Cessieux, salut Christophe.
Comment ça va mon petit JC? T'es en forme?
Bah, écoute, tout va bien.
Ah, on
bien
a sûr. Dormi pas loin tous les deux, on était bien là dans notre petit...
On raconte ça à l'antenne?
Ah bah on peut tout.
C'est vrai, on était côte à côte, dans le lit même.
Ah non,
on le dit pas, t'as raison. On avait deux chambres séparées, voilà. Parce que forcément, on anime cette émission ensemble, on s'apprécie, mais on ne va pas plus loin au travail.
T'as vu que t'es en photo dans le programme officiel du Grand Prix de France Moto, quand même.
C'est une petite cote de...
C'était il y a quelques années, quand même. T'as un peu changé depuis, hein.
Oui, c'est vrai. Beau, et toi, t'as changé?
Ah, moi, non.
T'as pas vieilli, toi, tu bouges pas.
Je bouge pas.
Bravo, bon Christophe. En tout cas, c'est notre troisième saison ici au Mans.
Bah oui, on est bien.
Pour le MotoGP, bien sûr. Bah, on espère une victoire des Français, même
si... C'est un peu... C'est mal barré, là.
Voilà, et on en parlera dans quelques instants. Une grande gueule qui, comme Kylian Mbappé, tu lui parles pas d'âge. Ah bah non, elle se vexe. Marie Martineau, salut. Marie.
Bonjour tout le monde. Je vais super bien et je vais avoir 40 ans. Voilà, c'est fait. Et il paraîtrait que je suis conscrite avec un certain JC Drouet qui, quand même, commence à blanchir plus vite que moi. Oui,
mais je viens de passer le cap. Ah, alors que toi, c'est
bravo,
dans quelques.
T'es
encore toute jeune.
Oh, ouais.
Évidemment. Mmh. Une grande gueule qui, comme Kylian Mbappé, n'a pas non plus été célébré quand il a quitté sa dernière équipe. Tu m'étonnes. Jérôme Pinault, salut Jérôme.
C'est pas mal. Salut et salut à tous.
Ça va Jérôme?
Oui, ça va très bien.
Ouais, c'est ta première ici?
C'est ma première. Puis je suis venu en voiture avec Sarah, donc j'ai déjà fait un peu de pilotage, c'est sympa.
Oui, c'est vrai.
Ça fonce, hein.
C'est beau, hein.
C'est impressionnant.
Ouh.
C'est beau, mais c'est loin. Comme
c'est loin, hein. C'est loin, très loin.
300 000 personnes, ça va être une fête absolument incroyable toute la journée sur RMC. C'est vrai que c'est toujours impressionnant de voir ce genre d'événement en direct ici au Mans. Et puis une grande gueule qui, comme Kylian Mbappé, son principal job, c'est quand même de faire de la com. Sarah Pitkowski, salut Sarah.
Bonjour à tous. Mais je pense que je peux prendre des leçons de Kylian Mbappé quand même.
C'est vrai?
Ah oui,
oh
oui.
Non,
il est bon. Il est quand même très très bon.
Tu pourrais lui en donner.
Franchement, il est très très bon.
Ok, on en parle à 10h en tout cas.
Justement.
De Kylian Mbappé. Alors, chers auditeurs, sachez que la roue RMC est de retour. Cette fois, vous allez pouvoir remporter jusqu'à 20 000 euros dès que vous entendez cette alerte. Elle trompette pas. Vous aurez 5 minutes pour vous inscrire en envoyant roue par SMS au 732-16. Roue par SMS au 732-16. Restez bien à l'écoute d'RMC. Ça va tomber dans cette émission. On va débuter cette émission avec cette citation de Jean Grenier qui a dit un jour « Il vaut mieux changer de classe qu'être déclassé ».
RMC, la une des grandes gueules du sport.
Quartararo qui est en 18e position, hein, Johan Zarco qui est 16e. On rappelle que les pilotes français s'est lancé 13e et 23e.
C'est un peu chier, mais c'est bien.
Johan Zarco qui a chuté.
Ah oui, une grosse frayeur. Cette année chez Spargaro, guidon de son Aprilia, l'espagnol, qui a tenté l'intérieur sur le pilote français et qui a été percuté la roue arrière de la Honda LCR de Zarco.
De toute façon, c'est toujours de ma faute, apparemment.
Je m'excuse, hein, on s'emmerde.
L'autre français, Fabio Quartararo, va glaner le point de la 15e place. Il ne pouvait pas faire mieux au guidon de sa Yamaha. On rappellera également l'abandon sur chute de Johan Zarco.
Là, c'est vraiment un cauchemar. Il va falloir, trouver une solution et surtout changer la mentalité du team, parce que je pense qu'on est plus en train de dormir que faire quelque chose de bien.
On s'emmerde, hein, le dimanche.
15 tours à couvrir le top 3. Bagnani en tête devant Benzeki et Marc Marquez. Le seul Français encore en course est en 15e position. Il s'agit de Fabio Quartararo.
Eh oui, qu'il paraît loin, le titre de champion du monde de Fabio Quartararo en 2021, qu'il paraît loin, son statut de vice-champion du monde en 2022, qu'elle paraît loin, la première victoire de Johan Zarco en MotoGP en 2023, cette saison. Les deux pilotes français, malheureusement, on le regrette, jouent les figurants. Fabio Quartararo est 12e au général, Johan Zarco 21e et avant-dernier. Nos deux têtes de gondole n'existent quasiment plus dans le paysage médiatique. La musique qui fout les jetons et cette question. Le soufflet pour vous, les GG, est-il déjà retombé ? Oui ou non ? Christophe Cessieux ?
Momentanément, oui.
Marie Martineau ?
Oui, un petit peu.
Sarah Pitkowski ?
Non.
Jérôme Pinault ?
Tout comme Sarah, non.
Avant de débattre, il y a un axe nantais.
Je vais rentrer.
C'est ça, il y a le retour à faire.
Oui, c'est ça. Tu vas être d'accord toute l'émission avec elle ?
Non, pas forcément. Oh,
merci. Avant de débattre, on va retrouver notre spécialiste, commentateur Paul Lafitte. Salut Paul.
Salut JC, salut à tous.
Alors pourquoi nos Français, les auditeurs ont envie de savoir, pourquoi ils souffrent autant cette saison ?
Bah, en fait, c'est tout sauf une surprise de voir aujourd'hui nos deux pilotes français rétrogradés dans la hiérarchie du MotoGP, tant leurs machines respectives souffrent de la comparaison avec bien sûr les Ducati, mais également les Aprilia ou encore les KTM. Si Johan Zarco passait du team Ducati Pramac à l'équipe satellite d'Honda LCR, s'attendait bien sûr à se retrouver en fond de grille, au guidon d'une machine devenue quasi inconduisible, voire dangereuse, dixit Marc Marquez, ancien pilote officiel Honda. C'est une toute autre équation aujourd'hui que doit gérer depuis le début de la saison Fabio Quartararo, le pilote officiel Yamaha, qui vient de remplir, on le rappelle, pour 2 ans avec l'écurie Nippon, le champion du monde 2021, qui trustait les victoires et les podiums depuis 2020, n'est aujourd'hui plus que l'ombre de lui-même. Alors non pas en raison de son talent qui reste intact, évidemment, mais à cause de sa moto, de ses ingénieurs et plus généralement du team Yamaha Monster, incapable de fournir aux Niçois une machine compétitive pour se battre aux côtés de Bagnaia, de Martin ou encore de Maverick Vinales. Et ses résultats très décevants depuis l'ouverture de la saison au Qatar ne plaident pas à un vent d'optimisme. 11e à l'Osaï, 7e au Portugal, 12e au Texas et 15e à Jerez de la Frontera. El Diablo, qui sera 8e tout à l'heure sur la grille de départ de son Grand Prix national, visera au mieux une place finale dans le top 10. Lui qui est aujourd'hui relégué, j'y sais, au 12e rang du classement général des pilotes avec 26 petites unités au compteur, quand le leader Jorge Martin en compte déjà 112. Zarco étant lui bien plus loin, au 21e rang avec 5 petits points. Vous l'avez compris, une lente descente aux enfers pour nos deux franchises, pas prête de s'arrêter au vu de l'écart grandissant entre les top teams italiens et leurs homologues japonais.
Merci beaucoup Paul Lafitte, tu restes avec nous pour ce débat. Le soufflet est-il déjà retombé ? Sachez que dans quelques instants, dans le studio RMC, ici en loge au Grand Prix du Monde, nous accueillerons le responsable MotoGP chez Michelin, c'est Pierre Taramasso. Ce sera notre premier invité dans cette émission. Mais tout d'abord, un tour de table. Pourquoi le soufflet est retombé ? Marie Martineau.
Un petit peu, j'ai dit, parce que alors c'est compliqué d'attaquer comme ça de bon matin ici, alors qu'il y a 300 000 personnes qui sont en train de se masser là, et que c'est quand même assez excitant, et que là, j'ai pas du tout l'impression d'un soufflet retombé quand je vois la ferveur des gens. Mais c'est vrai que dans un bon soufflet, il y a des ingrédients, et un des ingrédients essentiels, c'est quand même d'avoir une représentation internationale et d'avoir des Français. Et là, c'est vrai qu'on tourne quand même beaucoup autour des mêmes nationalités, et que, comme le disait très bien Paul, nos petits Français sont un petit peu plus loin à cause de leur machine, mais c'est difficile de l'expliquer au grand public que c'est pas parce qu'ils sont devenus moins bons, que c'est juste parce qu'il y a des réglages à faire, et pour le coup, en plus, on les voit pas forcément aller dans le bon sens. C'est vrai vrai qu'on a, on a vu Zarco quitter une écurie qui cartonnait, et on voit Rory Martin qui est tout en haut, et lui qui se retrouve tout en bas du classement maintenant. Voilà, c'est pareil pour El Diablo. On le voit stagner un peu chez Yamaha, et on a l'impression que, comme on n'est pas dans les secrets, eh bien, on a juste l'impression de l'extérieur qu'ils ne font pas les bons choix. Alors ça, c'est pas génial pour leur image.
C'est vrai, cette impression, mais aussi l'engouement médiatique. Tu as raison de rappeler qu'il y aura 300 000 personnes ici, mais cet engouement médiatique, on relaie moins, et même peut-être nous aussi sur RMC, même si nous sommes là aujourd'hui, on relaie peut-être moins la MotoGP. Mais je sens Sarah qui n'est pas du tout d'accord avec ce que je viens de dire. Sarah.
Enfin, oui, je suis pas du tout d'accord, parce qu'en fait tu viens de toucher du doigt la spécificité de la moto, c'est-à-dire que les gens sont là, ce sont des spécialistes pour la plupart, je vais peut-être dire 90-95% des gens qui sont là sont des motards. C'est une discipline de niche, c'est-à-dire qu'on vient autant voir des champions qu'on vient
grosse
voir des
niche
motos.
Quand même, hein, 300 000 personnes, ça fait une grosse niche.
Mais ce que je veux dire, c'est que ça ne s'adresse pas nécessairement à un très grand public, ça s'adresse à des gens qui sont passionnés par la moto en elle-même. Qui est un Français dessus, évidemment, ça lui donne une saveur différente. Mais je pense que même quand il n'y a pas de Français, tu as toujours autant de personnes qui viennent là.
On ne fait plus les primes de Canal. Souviens-toi, il y a 2 ans, ils échangeaient avec la Formule 1 et on avait la moto en prime time sur un dimanche après-midi.
Non, mais Canal Plus, attends, si tu parles du diffuseur, c'est-à-dire qu'il faut savoir que Canal Plus ne se positionne pas sur la Ligue 1, mais continue à faire de la moto. C'est-à-dire qu'ils ont fait des choix stratégiques parce qu'ils savent qu'ils ont un public très précis et qu'aujourd'hui, pour capter les gens, ça ne sert à rien de faire du grand public. On fait de la niche. Donc évidemment, dans les tablettes, c'est toujours mieux d'avoir des Français en haut de l'affiche. Mais je ne suis pas sûre que ça fasse plus vente de motos ou moins vente de motos parce que tu as Zarco sur le podium ou tu as Quartararo qui est sur le podium.
Oui, mais
c'est mieux.
Pour qu'un sport existe. Mais en tout cas, pour un sport moins populaire.
Non, mais dans un pays donné. Dans un pays donné. Évidemment, en Italie, en Espagne.
Combien de personnes font de la moto à haut niveau?
J'ai envie de le comparer au biathlon, si je peux. Eh ben, le biathlon.
De pratiquant de.
Mais bien sûr, mais pour qu'il existe le biathlon médiatiquement, je parle pour qu'il existe, il faut que les Français cartonnent. Est-ce que c'est un peu pareil avec la moto?
Cette année, en biathlon, les Français n'ont pas tellement cartonné.
Oh, les filles.
Les filles.
Ouais.
Mais depuis matin. Non, mais il n'y a pas la domination qu'il y avait avant dans toutes les disciplines, hommes et femmes. Et pourtant, ça continue. Et moi, ce que je dis, pourquoi je dis non? Parce que quand tu vois le monde qu'il y a et l'attente qu'il y a derrière Zarco et Quartararo, évidemment, la moto, elle n'est pas en train de rattraper le temps perdu. On a plutôt la tendance que. Mais l'espoir est là. Tant que tu as ces deux champions-là qui existent, malgré tout, nous, Français, on aime bien aussi le mec qui est en galère et qui va essayer de faire beaucoup mieux. Demande à ces gens qui sont là aujourd'hui. Moi, je suis impressionné par le monde qu'il y a aujourd'hui au Mans. S'ils attendent un exploit, oui, ils vont te dire oui. Le simple fait d'avoir l'espoir et d'avoir eu des pilotes qui ont été à très haut niveau et qui ont gagné des grands prix suscite l'espoir chez les gens. Et je crois qu'il n'y a pas plus important dans le sport, quand on aime le sport et quand on suit une discipline, que d'avoir l'espoir d'eux. C'est pas comme si on n'avait pas de pilote et qu'on voyait personne arriver. On les a, ces gars-là.
Enfin là, l'espoir,
il est très minime parce que la moto n'est pas bonne. Mais malgré tout, il y a ça, et il y a venir voir la star. Venir voir les gars.
Oui, ça, c'est
venir
ça, c'est
les voir gagner, mais venir les voir tous.
Ils sont extrêmement populaires, on a pu se rendre compte sur les différentes éditions.
Quoi qu'il arrive, et un sportif dans une carrière, il n'est jamais tout le temps au sommet. Mais ces passionnés-là, parce que comme, voilà, on l'a dit, ce sont des passionnés. Tous les motards de France et de Navarre sont là aujourd'hui. Le Mans, il faut y être pour les 24 et pour le Grand Prix. Et aujourd'hui, ces gens-là sont venus voir leurs idoles, qui gagnent ou pas, quelque part.
Ouais, je sais pas. Moi, tu vois, j'ai hyper fan de Zarco.
C'est pas le public de.
Oui, j'en ai marre de le voir faire des backflips.
Oui, mais c'est
sur la moto, tu vois, j'ai envie de le voir rouler, quoi. Non,
Christophe,
mais c'est vrai.
Non, mais alors, il y a évidemment, on a compris, il y a 300 000 passionnés ici. C'est le peuple des motards qui restera inconditionnellement, qui viendra tous les ans participer à ces grands prix. Mais quand tu regardes le traitement médiatique, mis à part les diffuseurs, donc Canal Plus, RMC, puisqu'on est là aussi et qu'on va vivre le Grand Prix en direct, et tu regardes l'équipe qui est quand même le journal référence, c'est 2 petites pages aujourd'hui en toute fin de journal. Il y a 2 ans, c'était la une du journal. C'est ça qui.
Mais là, je rejoins
ça qui m'inquiète. Et aujourd'hui,
mais qu'est-ce que ça change?
Mais ça change rien, évidemment, si les médias ne s'intéressent pas à un sport. Mais qui porte le truc, Sarah, quand même.
Quoi,
je veux dire, toi, tu fais de la com, mais bon, les médias, c'est quand même important dans l'existence d'un sport.
Pas moins le circuit ici qu'ils aient la première page de l'équipe ou pas. C'est ça, c'est
on
ça
te parle de l'intérêt pour le grand public. Est-ce qu'aujourd'hui le grand public en France, je ne parle pas des gens qui viennent ici, je te parle des gens qui ont découvert quelque part la moto. Les gens qui, il y a deux ans, ont découvert la moto. Franchement, il y a des Français qui, il y a deux ans, se disent, mais c'est génial la moto. Tous les gens étaient devant leur télé pour regarder les exploits de nos Français. Pour moi, ça cartonnait. Aujourd'hui, je suis pas sûr que tout le monde sache qu'il y a un Grand Prix de France.
Je connais bien un autre sport où il n'y a pas de Français qui brillent, ils regardent la télé.
Alors, il y a une différence.
Oui, mais
une différence. Et moi, je pense qu'effectivement, la moto est un sport qui est en progression constante.
Grâce à ces deux garçons-là.
Et aujourd'hui, il manquait encore 2-3 ans, pour que ça s'enracine complètement dans le public. Aujourd'hui, malheureusement, c'est pas le cas. Alors, j'espère qu'ils vont retrouver le feu sacré pour réintéresser.
C'est pas une question de feu sacré, c'est une question de machine.
C'est une question de machine et on va continuer d'en parler car notre premier invité, Pierrot Taramasso, est avec nous dans le studio RMC ici au Mans, le responsable MotoGP chez Michelin. Je vais vous le présenter et on va l'accueillir dans quelques instants. À mon avis, il a dû se dire, mais où je suis, où j'ai débarqué là. C'est des grandes gueules du sport. Dès 9h30, ils sont fâchés, ils sont en colère. Oui, ça nous arrive, évidemment. Ce sera tout de suite dans quelques instants sur RMC. Restez bien avec nous à partir de 10h, Kylian Mbappé qui va faire ses adieux au Parc des Princes. On a pas mal d'informations à vous donner. A tout de suite sur RMC.
RMC, les grandes gueules du sport en direct du MotoGP de France.
Vibrez Moto, rejoignez la Fédération Française de Motocyclisme. Partagez des moments exceptionnels, vivez des sensations incomparables et offrez-vous un vent de liberté sur nos circuits.
Tous les matins, réveillez-vous avec RMC.
À 4h30, votre premier journal. 5h, 6h30, Charles Matin.
6h30, 9h, Apolline Matin et le face-à-face à 8h30 avec un invité qui fait l'actualité. RMC, le matin.
Le réflexe info.
Carrefour.
Quand vous me dites
Carrefour baisse ses prix.
Eh oui, et de 10% en moyenne parmi vos produits préférés au rayon fromage et glace, comme la feta grecque AOP Carrefour Extra qui passe de 2,89€ à 2,45€, soit 15% moins cher. Et c'est chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive et sur carrefour.fr.
Carrefour, on a tous droit au meilleur. Barquette de 200 grammes, prix baissé à compter du 6 mai 2024 par rapport au prix permanent des produits. Détaillez liste des produits concernés sur carrefour.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés.
RMC au 32-16,
45 centimes la minute.
Ou par SMS au 732-16,
75 centimes par envoi, plus prix du SMS.
Lorsque Greg reçut sa livraison Amazon, ce fut le début d'un nouveau cycle pour lui. Ce mode éco, cette technologie anti-vibration, c'était le lave-linge de ses rêves à un prix si bas qu'il ne put résister. Ça mérite bien 5 étoiles. Des produits très bien notés à des prix que vous allez adorer. Découvrez nos offres dès maintenant sur Amazon. Aujourd'hui, tout le sport est sur RMC.
12h15, cyclisme, la 9e étape du Tour d'Italie. 14h, MotoGP, départ du Grand Prix de France. Et à 20h45, football, 7 matchs de l'avant-dernière journée de Ligue 1 en simultané.
RMC, numéro 1 sur le sport.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport en direct du Mans.
Jean-Christophe Drouet.
9h47 de retour dans les grandes gueules du sport avec ce matin Christophe Cessieux, Marie Martineau, Sarah Pitkowski, Jérôme Pinault. Nous sommes en direct du Mans. C'est l'événement aujourd'hui à l'occasion du Grand Prix MotoGP. Nous allons continuer d'en parler avec des invités tout au long de cette émission. À partir de 10h, Kylian Mbappé va faire ses adieux au Parc des Princes devant ses supporters. Le PSG ne prévoit rien de spécial pour lui. Est-ce petit ? Ce sera notre bras de fer dans quelques instants. Mais nous allons accueillir notre premier invité aujourd'hui. C'est Pierrot Taramasso, responsable MotoGP chez Michelin. Bonjour Pierrot.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous supervisez aujourd'hui les plus prestigieuses courses moto dans le monde. Michelin, je le rappelle, le manufacturier unique du MotoGP. Déjà, vous avez écouté notre débat, savoir si l'engouement était en train de baisser, si le soufflet était...
En France, en tout cas, en Italie, en Espagne, je pense que...
De retomber. Ça, tu as raison. C'est quoi votre point de vue sur cette question ?
Non, mon point de vue, il est clair. Johan et Fabio, ils n'ont rien à démontrer. C'est des super pilotes, c'est des champions. Et malheureusement, aujourd'hui, ils ont des machines qui ne leur permettent pas de se battre à l'avant-poste. Honda et Yamaha, ils ont sous-estimé certains aspects techniques comme l'aérodynamique, l'électronique. Donc aujourd'hui, ils sont en retrait par rapport aux européennes, que c'est Ducati, KTM ou Aprilia. Par contre, oui, il faut juste attendre. Là, c'est toujours des cycles que ça se passe dans le sport mécanique, que ce soit auto, moto. On voit toujours des cycles à un moment
donné. Ça dure combien un cycle en moto?
Un cycle, ça peut durer.
Assurez-nous.
Non, un cycle, ça peut durer 2-3 ans. Ouais. C'est, oui, on n'arrive pas d'une course à l'autre à rattraper tout ce temps perdu. Vous avez vu, là, il y a 20 pilotes dans un seconde. Ça bataille à 1-2 dixièmes. Donc, c'est, voilà, il faut travailler longtemps parce que. Même si toi, tu rattrapes le terrain, c'est le devant, ils avancent toujours.
C'est ça, les autres continuent à bosser.
Ils continuent à bosser, c'est pas qu'ils sont arrêtés. Donc, ouais, il faut compter, moi, je dirais 2 saisons, mais Yamaha et Honda, ils sont quand même des gros manufacturiers, ils savent faire des motos, des moteurs et tout, donc ils vont y arriver.
Rassurez-nous, c'est pas à cause des pneus que vous leur donnez. Hein.
Ah non,
vous leur donnez des bons pneus aussi à nos Français.
Ah, oui.
Hein.
Ah, oui, non, Michelin.
Ah ben d'ailleurs, mais...
Pierrot, surtout les pneus 2024.
Alors, oui.
Ça, ouais. Ça semble faire l'unanimité.
C'est une machine de guerre, a priori. Ouais. Vous avez fourni à tout le monde. Tous les records sont battus à toutes les courses, incroyable.
Exact, ouais. On a changé les mélanges par rapport à la saison précédente. On a changé quelques composants des mélanges.
On arrive à quand encore à changer des choses dans la confection des pneus. C'est quand même un truc incroyable,
oui.
Ça.
Oui, oui, on peut faire des changements. Ça, c'est pourquoi on est en MotoGP, c'est pour développer des nouvelles technologies, innover, trouver des nouveaux matériaux.
Vous travaillez sur des pneus à plein?
Sur des pneus?
Des pneus pleins, des pneus entièrement pleins?
Oui, oui,
vous,
oui.
Travaillez,
oui,
là-dessus?
Oui, hum, oui, oui.
Non, parce qu'il paraîtrait que dans une logique environnementale, in fine, d'ici quelques dizaines d'années, toutes nos voitures, nos véhicules seraient équipés de pneus pleins. Donc j'imagine que vous travaillez là-dessus.
Oui, oui, on travaille sur toutes les innovations, sur toutes les technologies possibles, qu'après on peut transférer dans les pneus.
Au grand public.
Au grand public, oui. Donc ça, c'est pour ça qu'on est dans le motorsport.
Moi, j'ai une petite question. En fin d'année dernière, Jorge Martin, qui était à la lutte pour le titre mondial, a fait une sortie en accusant, ou en tout cas en trouvant comme responsable, ses pneumatiques qui lui auraient volé le titre. Que s'est-il passé à l'intersaison pour que vous sortiez ces pneumatiques-là, comme le disait Christophe, c'est-à-dire que tous les records de piste ont été battus, et là, il semble que ça fasse l'unanimité. C'est-à-dire que vous avez changé complètement les formules. Comment vous avez analysé, déjà, que Jorge Martin vous accuse de ça? Comment vous avez analysé ça?
Oui, ça, c'est deux sujets différents. Ouais, Martin, il jouait pour le championnat.
Oui.
C'était l'avant-dernière course. Et il a performé en dessous de ses expectatives, de ce qu'il croyait de faire. Et donc voilà, et les pilotes, ça leur arrive que quand ils sont chauds, avec beaucoup d'adrénaline, qu'ils nous accusent. Ça arrive souvent. Hein. Là, ça fait beaucoup plus de bruit que d'habitude.
Parce que c'est lui.
Parce que c'est lui, parce que c'est, ça joue le championnat, c'est arrivé à un moment. Mais après, nous, quand on a fait des analyses bien, bien poussées, soit du pneumatique, soit des data qui nous,
oui,
ont fini le team. On a pu prouver que ça venait pas du pneumatique.
Mais, en fait, mais du pilote?
Les pneus, même pas du pilote, c'était les conditions. C'est, en fait, le pneu, il performe, ça dépend comment tu le prépares. Donc la performance du pneu, elle est liée à comment tu le prépares, à les pressions, à les températures, à l'usage, mm-hmm, à comment tu le mets en Donc c'est vraiment, c'est pas un pneumatique de route qui fonctionne entre un bar et 2 bars.
Oui.
Là, il faut vraiment être très très précis parce que c'est des produits très très pointus, comme c'est une MotoGP. L'aérodynamique, les moteurs, tout est poussé à la limite. Et nos pneumatiques, il faut qu'ils fonctionnent dans une certaine range, disons, de fonctionnement. Et là, c'était pas le cas. Et sinon, ouais, qu'est-ce qu'on a fait pour les pneus, pour la gamme 24? Ça, c'était déjà prévu à l'avance.
D'accord.
On voulait travailler sur la constance des temps autour. Donc, nous, on veut pas un pneu qui va vite 1 ou 2 tours et après il dégrade.
Mm-hmm.
On veut des pneumatiques qui restent rapides pour toute la distance de la course. Donc, en travaillant sur la constance du pneumatique, on a proposé ces nouvelles mélanges, et quand on les a proposés, ils nous ont dit oui, ils sont plus constants, on arrive à faire des bons chronos même après 15-20 tours, mais il y a plus de grippe aussi. Donc ça, c'était une surprise. Et donc c'est pour ça
qu'on arrive... Une bonne surprise.
Oui, c'est une bonne, oui, surprise. C'est vrai qu'on ne cherchait pas ça, c'est vrai que les moteurs vont déjà assez vite, donc on n'a pas besoin d'aller encore plus vite, mais c'est arrivé et ça leur a plu, et donc on les a introduits pour le championnat 2024.
Pierrot Taramasso, responsable MotoGP chez Michelin, est avec nous dans le studio RMC ici au Mans à l'occasion du Grand Prix MotoGP. Paul Lafitte.
Pierrot, c'était une volonté de la part de Michelin vous avez eu des retours de la part des pilotes durant l'intersaison pour chercher à avoir un pneu beaucoup plus constant qui soit performant l'espace d'un warm-up, l'espace d'une course, l'espace de plusieurs tours de qualification?
Ouais, ça c'est une volonté de Michelin. C'est vraiment qu'est-ce qu'ils cherchent à manufacturer pneus, c'est prouver l'endurance du pneu, la constance. Et c'est vraiment, nous on appelle ça le grip to last, donc avoir un bon grip mais qui last, qui dure longtemps. Donc c'est vraiment nous qu'on a, on voulait chercher ça.
Alors là, on parle technique, mais c'est vrai que pour le grand public, on se demande ce que vous, responsable Michelin, vous faites sur un Grand Prix. C'est quoi votre job? Ça consiste en quoi concrètement, là, par exemple, aujourd'hui?
Ben aujourd'hui, c'est...
Déjà... Les pneus, ils sont faits.
Oui, les pneus sont faits, mais après, il faut les donner au team, il faut leur expliquer comment il faut les utiliser, les pressions, les températures.
Ok, vous avez un accompagnement tout au long du week-end, par exemple.
On a un accompagnement. Moi, j'ai des techniciens qui sont attitrés dans chaque box et qui sont en contact avec les pilotes et les chefs mécanos et qui essaient de leur conseiller quelles spécifications utiliser pour les conditions de la piste, en fonction de la température, de l'abrasivité, du réglage moto, du style du pilote. Donc on a trois spécifications à l'avant, soft, medium et dur, et à l'arrière deux spécifications. Donc notre rôle, c'est de leur conseiller quelle pneumatique utiliser pendant la course et comment l'utiliser.
Alors, on a vu que sur une saison de MotoGP, il y a plusieurs écuries qui s'affrontent, Ducati, Aprilia, plusieurs constructeurs. En revanche, il n'y a qu'un manufacturier de pneus. Est-ce que ça, est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être instaurer de la concurrence justement pour essayer de vous challenger quelque part? Parce que si d'autres grands manufacturiers de pneus étaient là, ça vous obligerait peut-être encore à faire plus, à avoir des pneus encore plus performants.
Si oui, il s'appelle Christophe Cessieux.
Si vous répondez oui, vous êtes viré.
Mais ça, c'est un cas de figure que Michelin, il adore. Donc nous,
on peut comprendre.
C'est la compétition, c'est mesuré avec notre manufacturier. Pour nous, c'est là où on arrive à développer, à trouver des solutions le plus rapidement possible. On l'a fait beaucoup
d'années dans le passé. Bah
ouais. Et c'est plus excitant. Mais aujourd'hui, malheureusement, ça, c'est la politique de tous les gros championnats, que ce soit le MotoGP, que ce soit la Formule 1, le Superbike.
Il n'y a plus qu'un
manufacturier. Ouais. C'est pour une question de réduire les coûts des tests. Comme ça, les écuries doivent faire moins de tests. Et aussi pour une question d'équité. Comme ça, au moins, tout le monde il a la même. Les mêmes.
Ouais, mais à ce moment-là, il faudrait mettre les mêmes motos.
C'est ce que j'allais dire. L'équité, elle se discute quand même dans un sport mécanique.
Il y a certains composants, comme le boîtier électronique, c'est unique pour, c'est pour tout le monde le même. Les pneumatiques, c'est tout pour le monde le même. Donc, ils essayent de niveler pour certaines choses et laisser la liberté juste pour d'autres.
À moi.
Bon, vas-y alors.
Pierrot, on est au Mans, le ciel se voile, ils annoncent a priori de la pluie pour cet après-midi. Vous avez prévu les pneus pluie?
Oui, on a prévu les pneus pluie et moi je serais très heureux s'il pleut.
Nous aussi en fait, c'était un peu le sens de la question.
Parce que nos pneumatiques sous la pluie, ils sont
encore mieux.
Oui, ils sont encore mieux, ils ont une performance exceptionnelle.
C'est un fil rouge chez Michelin. Moi, pour avoir roulé en vélo sur les pneus Michelin à l'époque, c'était sous la pluie, on était intouchable.
Bah, c'est parce qu'à Clermont, il pleut tout le temps.
Ça doit être ça. La région où on les teste et très sérieusement, mais il y avait même des coureurs, des très grands coureurs, dont un, je citerai pas son nom parce que ça ne se fait plus en public, mais il était venu nous voir pour savoir ce qu'on est. Le grand Lance Armstrong de l'époque était venu nous voir pour nous demander ce qu'on avait comme pneus et il avait testé ces pneus-là sur un Dauphiné parce que sur une course qui précédait, je crois que c'était l'ancien Midi Libre, on l'avait largué dans une descente avec l'équipe, on roulait, on avait le maillot, il était incapable de nous suivre et c'était des pneus Michelin.
Oui, c'est vraiment le DNA des Michelin, que ce soit en deux roues, quatre roues.
Je peux vous apporter ma voiture parce que s'il pleut et qu'on doit repartir, il faut changer les pneus.
Et si vous connaissez, si vous avez un collègue qui fait des casques aussi, je veux bien.
Et on précisera quand même à l'ensemble de nos auditeurs que chaque pilote de week-end de Grand Prix a droit à 22 pneus, 10 à l'avant et 12 à l'arrière.
Une précision importante parce que ça pour le coup
ça fait quand même beaucoup hein, on essaye alors
c'est le travail de Pierre qu'il est là parce que s'il y a 22 pneus par pilote forcément
le MotoGP et tous les sports mécaniques essayent de rendre la chose plus écolo quand on a 22 pneus par pilote ça fait beaucoup, mais on a réduit
depuis quand on a commencé. D'accord. En 2016 c'était 30 pneus. Donc on a vraiment réduit, c'est dans notre objectif, c'est de réduire les quantités de pneus, soit fabriqués, soit transportés, soit utilisés.
Merveilleux.
On est passé déjà de 30 à 22. Aussi les spécifications, quand on a commencé on avait 59 spécifications différentes entre les pneus avant et arrière. Aujourd'hui on est à 31, donc presque la moitié. Donc c'est que toute la partie durable, c'est très très important pour le groupe Michelin. Et nous, bien sûr, on veut contribuer... sur ça.
Et on en parlera d'ailleurs des sports mécaniques. Est-ce que ça peut rimer avec écologie? Ce sera un petit peu plus tard dans cette émission avec le président de la Fédération Française de Moto, Sébastien Poirier, qui sera notre invité. Merci beaucoup, Pierrot Taramasso,
bon week-end,
responsable
alors,
hein. MotoGP bon chez Michelin. Et bonne pluie,
j'espère.
Pour vous. Voilà, comme ça, on verra la qualité des pneus.
Oui, bonne course. Ciao, ciao.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin dans les grandes gueules du sport. On revient dans quelques instants, le bras de fer des GG. Le départ de Kylian Mbappé, son dernier match au Parc des Princes ce soir. Le club parisien, le PSG, qui n'envisage pas de célébration particulière pour sa star. Est-ce tout simplement
simplement petit. Oui ou non, les GG ne sont pas d'accord. A tout de suite sur RMC.
J'ai l'impression qu'il part un peu de la mauvaise manière.
Kylian Mbappé a apporté beaucoup de joie aux supporters parisiens.
J'aurais aimé qu'il gagne la Ligue des Champions de Paris.
Ce serait mentir que de dire qu'il n'a pas laissé une empreinte marquante.
Faut pas être trop méchant avec lui.
Et il fait évidemment partie des légendes du PSG.
RMC, les grandes gueules du sport en direct du Mans.
Vibrez Moto, rejoignez la Fédération Française de Motocyclisme. Partagez des moments exceptionnels, vivez des sensations incomparables et offrez-vous un vent de liberté sur nos circuits.
Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes.
Ah, le patron, elle est à 1,39€.
Dans quoi on s'est embarqué ?
Dans les barquettes de framboises. Dès demain chez Lidl, la barquette de 125 grammes est à 1,39€. Et avec l'application Lidl Plus, il y a moins 15%. 1,18€ la barquette.
Bon, t'arrêtes avec tes barquettes.
Lidl, partenaire officiel de l'UEFA Euro 2024. Jusqu'au 9 juin, tentez de gagner vos places avec l'appli Lidl Plus. 11,12€ le kilo, 9,44€ avec l'application Lidl Plus. Catégorie 1, origine Maroc, Espagne et Portugal. Plus d'informations sur Lidl.fr.
Peugeot. Nous prenons en moyenne 35 000 décisions par jour. On ne sait pas vous, mais chez Peugeot, on trouve que ça fait beaucoup. C'est pourquoi nous lançons le nouveau Peugeot 3008 hybride. Plus besoin de choisir entre électrique et thermique. Sobre et dynamique, il permet de rouler jusqu'à 50% du temps en électrique en ville et d'économiser jusqu'à 30% de carburant. Venez le découvrir en concession ou sur Peugeot.fr. C'est sans doute la meilleure des 35 000 décisions que vous prendrez aujourd'hui.
Suivant état de charge de batterie, style de conduite versus une motorisation thermique. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.